Tourine chez les hors-la-loi. Ici, le comte s'intéresse à nouveau à Tourine. Se croyant lui-même un hors-la-loi, que le roi allait faire traquer, il ne retourna pas auprès de Belleg sur les marches septentrionales du Doriath, mais s'en alla vers l'ouest, et passant secrètement hors du royaume gardé, pénétra dans les forêts au sud du Teiglin. Là, avant les Nirnaeth, vivaient de nombreux hommes dans des domaines éparpillés. Ils étaient pour la plupart du peuple de Haleth, mais ne se reconnaissaient pas de seigneurs et vivaient de la chasse et de l'agriculture, gardant des troupeaux de porcs sur les hêtraies et cultivant des clairières forestières qu'ils clôturaient pour se protéger des dangers de la nature. Mais à l'époque, la plupart d'entre eux avaient été anéantis ou avaient fui à Brethil, et toute la région vivait dans la crainte des orques et des hors-la-loi. Car en ces temps de malheur, des hommes sans feu ni lieu ni espérance se dévoyaient, qui avaient vu des batailles et des défaites et des campagnes ravagées, et certains étaient des hommes que de noirs forfaits avaient relégués dans les solitudes. Ils chassaient et ramassaient ce qu'ils pouvaient pour se nourrir. Mais en hiver, lorsque la faim les tenaillait, ils étaient redoutés tels des loups. Et ceux qui défendaient encore leur maison les appelaient les Gaorweth, les hommes-loups. Une cinquantaine d'entre eux avaient formé une bande, errant dans les bois, le long des marches occidentales du Doriath. Et on les haïssait presque autant que les orques, car parmi eux, il y avait des proscrits au cœur endurci qui en voulaient à tous ceux de leur propre peuple. Le plus terrible d'entre eux était un nommé Androg, chassé du Dorlomine pour avoir tué une femme. Et il y en avait d'autres originaires de ce pays. Le vieil Algund, l'ancien de la compagnie, qui avait fui les Nirnaeth, et Forweg, comme il se nommait lui-même, le capitaine de la bande, un homme aux cheveux blonds et au regard fébrile et luisant, grand et hardi, mais ayant bien failli aux coutumes des Edain du peuple de Hador. Il devenait très méfiant, et soit qu'il fasse mouvement, soit qu'il fasse halte, il plaçait des éclaireurs ou des sentinelles alentour. Aussi furent-ils vite au courant de la présence de Tourine lorsqu'il vint errer près de leur repère. Ils le suivirent à la trace et l'encerclèrent. Et comme il débouchait dans une clairière au bord d'un torrent, il se trouva soudain entouré d'hommes, l'arc bandé et l'épée nue. Alors Tourine s'arrêta, mais ne manifesta aucune peur. « Qui êtes-vous » dit-il. « Je pensais que seuls les orques piégeaient les hommes, mais je vois que je me suis trompé. »«
Tu maudiras peut-être ton erreur, » dit Forweg, « car c'est là notre territoire. » Et nous n'autorisons aucun autre homme à le parcourir. Nous prenons leur vie en gage, à moins de pouvoir en tirer rançon. »
Alors Tourine éclata de rire. « Tu n'obtiendras pas de rançon de moi, » dit-il. « Un paria et un hors-la-loi. Tu peux me fouiller lorsque je serai mort, mais il t'en coûtera cher de prouver que je dis vrai. » Sa mort, cependant, semblait proche, car les flèches étaient encochées aux cordes, attendant un mot du capitaine. Et aucun de ses ennemis ne se tenait à portée d'une brusque estocade. Or Tourine, apercevant des pierres en bordure du torrent à ses pieds, se baissa soudain, et au même instant un des hommes, irrité par ses paroles, lâcha sa flèche. Mais elle fila au-dessus de Tourine, qui, se redressant d'un bond, lança sa pierre avec force. Et il visa juste, et l'archer tomba au sol, le crâne fracassé.
« Je pourrais vous être plus utile vivant, à la place de cet homme malchanceux. » dit Tourine.
Et se tournant vers Forweg, il dit « Si tu es le capitaine ici, tu ne devrais pas permettre à tes hommes de tirer sans commandement. »
« Je ne le leur permets pas, » dit Forweg. « Mais il a été promptement puni, et je te prendrai à sa place, si tu obéis mieux à mes ordres. »
Lors, deux des hors-la-loi protestèrent, et l'un d'eux était l'ami de l'homme abattu. Ulrad était son nom.
« Voilà une bien étrange manière de s'ouvrir les rangs d'un groupe de compagnons, » dit-il, « en tuant l'un des meilleurs d'entre eux. »«
Non sans provocation, » dit Tourine.
« Mais voyons, je me mesurerai contre vous deux en même temps, soit avec des armes, soit à main nue, et vous verrez alors si je suis digne de remplacer l'un de vos meilleurs hommes. »
Et il se dirigea vers eux. Mais Ulrad se retira et ne voulut pas combattre. L'autre jeta son arc à terre, et considéra Tourine des pieds à la tête. Et cet homme était Androg du Dorlomine.
« Tu es trop fort pour moi, » dit-il enfin en secouant la tête. Personne ici ne peut te défier, Metavi. Tu peux te joindre à nous en ce qui me concerne. Mais tu as une mine singulière. Tu es un homme dangereux. Quel est ton nom ?
Nathan, l'outragé, je me fais appeler, dit Turin. Et dès ce jour, les hors-la-loi l'appelèrent Nathan. Il leur dit qu'il avait souffert des injustices, et à quiconque prétendait au même, il prêtait une oreille bien trop complaisante. Mais il ne voulut rien révéler de plus, touchant sa vie ou sa maison. Et cependant, il voyait à l'évidence qu'il était déchu d'une haute condition, et quoique pour tout bien il ne possédât que ses armes, celles-ci étaient de la main des elfes forgerons. Bientôt, il gagna leur bonne grâce, car il était fort et vaillant, et plus habile qu'eux dans les arts forestiers. Et ils lui firent confiance, car il n'était pas cupide, et ne pensait guère à lui. Mais ils le craignaient pour ses brusques colères, qu'il ne comprenait que rarement. Au Doriath, Turin ne pouvait, ou par orgueil, ne voulait retourner. Et depuis la chute de Felagund, personne ne trouvait admission à Nargothrond. Aux petites gens de Haleth, dans la forêt de Blethil, ils ne daignaient se mêler. Et au Dorlomine, ils n'osaient se rendre, car le pays était cerné de toutes parts, et un homme seul, à cette époque, ne pouvait espérer, pensait-il, franchir les cols des montagnes de l'ombre. Ainsi, Turin fit-il même feu et peau avec les hors-la-loi. Car la compagnie d'hommes, quels qu'ils soient, rendait moins dur à supporter les rigueurs de la vie sauvage. Et parce qu'il souhaitait vivre et ne pouvait pas être toujours en guerre avec ses compagnons, il ne cherchait guère à réfréner leurs passions criminelles. Et cependant, par moments, la pitié et la honte l'envahissaient, et il devenait dangereux dans sa colère. Ainsi passa-t-il l'année, et tant que durèrent le dénuement et la fin de l'hiver, jusqu'à ce que vint l'éclosion et à sa suite un doux printemps. Or, on a vu que dans les bois au sud du Teiglin, il y avait encore quelques domaines menés par des hommes, courageux et prudents, bien que peu nombreux désormais. Ils n'aimaient pas les Gaorweth, et n'éprouvaient guère de pitié à leur égard. Toutefois, au plus fort de l'hiver, ils déposaient les nourritures dont ils pouvaient se passer là où les hommes-loups les pouvaient trouver. Ainsi espéraient-ils se prémunir contre les attaques de leur horde affamée. Mais ils recevaient moins de gratitude des proscrits que des bêtes et des oiseaux, et leur salut, ils le devaient plutôt à leurs chiens et à leurs cloisons. Car chaque domaine possédait sa propre clôture autour des cultures, et les maisons étaient entourées d'un fossé renforcé par une palissade. Et des chemins menaient d'une maison à l'autre, et les hommes pouvaient appeler au secours en sonnant du cor. Lorsque le printemps battait son plein, il y avait danger cependant pour les Gaorweth de s'attarder si près des maisons des forestiers qui pouvaient se rassembler et leur courir sus. Et Turin se demandait pourquoi Forweg ne les conduisait pas ailleurs. Car il y avait plus de nourriture et de gibier et moins de danger au sud, où les hommes ne s'aventuraient pas. Puis un jour, Turin constata l'absence de Forweg et celle aussi d'Androg, son ami. Et il demanda où ils étaient. Mais ses compagnons ne firent que rire.
« À leurs affaires, sans doute, » dit Ulrad. « Ils reviendront sous peu, et nous lèverons le camp. Et peut-être en toute hâte, car nous aurons de la chance s'ils n'amènent pas à leurs trousses toutes les abeilles de la ruche. »
Le soleil brillait, et les jeunes pousses verdoyaient. Et Turin s'irritait du sordide campement des hors-la-loi, et il s'en alla errer seul assez loin sous la ramée. Malgré lui, il se remémora le royaume caché, et il lui sembla entendre les noms des fleurs du Doriath comme les échos d'une très ancienne langue quasiment oubliée. Mais soudain il perçut des cris, et d'une trochée de coudriers, une jeune femme émergea précipitamment. Ses vêtements étaient déchirés par les épines, et elle avait grand-peur, et trébuchant, elle tomba haletante à terre. Turin, se ruant vers le bosquet, l'épée nue, abattit un homme qui jaillissait du fourré à la poursuite de la jeune femme. Et c'est seulement en frappant qu'il reconnut dans son adversaire Forweg. Et comme il se tenait là, regardant avec stupeur le sang sur l'herbe, Androg surgit et s'immobilisa, stupéfait également.
« Du mauvais travail, Nathan !» cria-t-il. Et il tira son épée. Mais l'humeur de Turin se glaça. Et il dit à Androg,
« Où sont donc les orques ? Vous les avez gagnés de vitesse pour lui porter secours ?»«
Les orques ?» dit Androg. « Fou que tu es ! Et tu te prétends hors la loi ! Les hors-la-loi n'ont de loi que leurs besoins. Occupe-toi des tiens, Nathan, et laisse-nous aux nôtres. »
Ainsi ferai-je, dit Turin. Mais aujourd'hui nos chemins se sont croisés. Tu laisseras la femme à mes soins, ou tu iras rejoindre Forweg.
Androx se mit à rire.
Si c'est comme ça, fais ce que tu veux, dit-il. Je ne prétends pas pouvoir me mesurer seul à seul avec toi, mais les nôtres trouveront peut-être à redire à ce meurtre.
Alors la femme se releva et posa sa main sur le bras de Turin. Elle regarda le sang, et elle regarda Turin, et son regard brillait de plaisir.
« Tue-le, Seigneur, » dit-elle. « Tue-le aussi, et viens ensuite avec moi. Si tu lui apportes leur tête, cela ne déplaira pas à Larnac, mon père. À des hommes, il a offert bonne compensation pour deux têtes de loup. »
Mais Turin dit à Androg, « Il y a loin jusqu'à chez elle ?»«
Environ une lieue, » répondit Androg. « C'est là-bas, dans un domaine enclos. Elle s'était égarée au dehors. »
« Va-t'en vite, » dit Turin, se tournant vers la jeune femme, « et dis à ton père de te mieux surveiller. Mais je ne trancherai pas la tête de mes compagnons pour gagner ses faveurs, ni rien d'autre. »
Et il remit l'épée au fourreau.
« Viens, » dit-il à Androg, « nous rentrons. Mais si tu souhaites enterrer ton capitaine, tu dois t'en charger toi-même. Et fais vite, car on va nous courir sus, et rapporte ses armes. »
Turin s'en alla de son côté sans un mot de plus, et Androg le regarda partir, le sourcil froncé, comme qui cherche le mot de l'énigme. Lorsque Turin revint au camp des hors-la-loi, il les trouva nerveux et inquiets, car ils avaient séjourné trop longtemps au même endroit, aux abords d'habitations bien gardées, et ils s'indignaient contre Forweg.
« Il nous fait courir des risques, » disait-il, « et d'autres pourront avoir à payer pour ses plaisirs. »
« Alors choisissez-vous un nouveau capitaine, » dit Turin, se tenant devant eux. « Forweg ne peut plus vous commander, car il est mort. »«
Comment le sais-tu ? » dit Ulrad. « Est-ce que tu as été volé du miel à la même ruche que lui ? Et les abeilles t'ont-elles piqué ?»«
Non, » dit Turin. « Un dard a suffi. Je l'ai tué. Mais j'ai épargné Androg et il sera bientôt de retour. » Alors il leur dit ce qui avait eu lieu, leur reprochant leurs actes, et tandis qu'il parlait, Androg revint portant les armes de Forweg.
Tu vois, Nathan, s'écria-t-il, l'alerte n'a pas été donnée. Peut-être espère-t-elle te rencontrer de nouveau.
Si tu te moques de moi, dit Turin, je regretterai de lui avoir disputé ta tête. Maintenant dis ton histoire et sois bref.
Alors Androg raconta sans détour tout ce qui s'était passé.
« Qu'allait faire Nathan par là ? » dit-il. « Je me le demande. Pas la même chose que nous, semble-t-il. Car lorsque je me suis approché, il avait déjà tué Forweg. Cela plut à la femme, et elle offrit de le suivre, demandant nos têtes pour prix de la fiancée. Mais il n'en voulut pas, et il l'a renvoyée chez elle. Aussi je ne peux deviner pourquoi il en avait après le capitaine. Il m'a laissé la tête sur les épaules, ce pourquoi je lui suis reconnaissant, bien que perplexe.
« Alors je te dénie la prétention d'appartenir au peuple de Hador, » dit Turin. « Tu t'apparentes plutôt à Uldor le Maudit, et devrais aller prendre du service à Angband. »« Mais écoutez-moi maintenant, » s'écria-t-il. « Voici le choix que je vous donne. Vous devez me prendre pour capitaine à la place de Forweg ou me laisser partir. Je serai désormais chef de cette compagnie, ou bien je la quitterai. Mais si vous voulez me tuer, en garde, je vous combattrai tous jusqu'à la mort. La mienne ou la vôtre. »
Là-dessus, plusieurs d'entre eux coururent aux armes, mais Androg s'interposa.
« Non, la tête qu'il a épargnée n'est pas privée de cervelle. Si nous nous battons, plus d'un mourra inutilement avant que nous parvenions à tuer le meilleur d'entre nous. »
Et il se mit à rire.
« Comme cela s'est fait lorsqu'il s'est joint à nous, eh bien, de même aujourd'hui. Il tue pour faire de la place. » Et si nous nous en sommes trouvés bien alors, il en sera de même aujourd'hui, et peut-être nous conduira-t-il à fortune plus haute que de rôder autour des tas de fumier des autres hommes. »
Et le vieux Algund dit,
« Le meilleur d'entre nous. Il fut un temps où nous aurions agi pareillement si nous avions osé, mais nous avons oublié beaucoup de choses. Peut-être qu'à la fin, il nous ramènera chez nous. »
Sur ce,
La pensée vint à Turin que de cette petite bande, il pourrait se forger une libre seigneurie tout à lui. Mais il regarda Algun et Androg, et il dit « Chez nous, dites-vous ? Mais entre nous et notre pays se dressent les montagnes de l'ombre, hautes et froides, et derrière se tient le peuple d'Uldor, et alentour les légions d'Angband. Si de telles choses ne rebutent pas votre ardeur, cette fois cet homme, alors je peux vous ramener au pays. Mais jusqu'où, avant que la mort gagne sur nous ?» Ils demeurèrent tous silencieux. Et Turin parla de nouveau. « Me prenez-vous pour votre capitaine ? Si oui, je vous conduirai d'abord dans les solitudes sauvages loin des maisons des hommes. Là, il se peut que nous trouvions un sort plus clément, ou non. Au moins, nous ne nous attirerons plus la haine de notre propre peuple. » Alors tous ceux qui étaient du peuple de Hador se rassemblèrent autour de lui et le prirent pour capitaine. Et les autres, bien qu'avec moins de bon vouloir, l'acceptèrent. Et immédiatement, il les conduisit hors de ses contrées.